Non, dans un cas, ça a été une surprise, dans l'autre, ça a été beaucoup moins. Dans le cas du Tchad, on peut parler d'une surprise parce que rien ne laissait entrevoir cette décision. L'envoyé spécial du président Macron sur les questions de reconfiguration de la présence militaire s'est rendu au Tchad. Et au regard des discussions qu'il a eues avec les autorités tchadiennes, il avait annoncé plutôt une réduction du nombre de soldats français qui devraient passer de 1000 à 300. Donc, si on regarde ça et si on voit que le timing de cette annonce, puisque l'annonce a été faite le jour même où le ministre français des Affaires étrangères, M. Barrot, a été reçu par le président Mahamat Idriss Déby, on ne peut que être surpris par la décision tchadienne qui, à mon avis, va avoir de grandes implications parce que le Tchad était presque le dernier allié au Sahel, de la France, puisque la France a été évincée du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Au Sahel, le Tchad était son dernier allié. Par contre, au Sénégal, il n'y a pas de véritable surprise, puisque, comme on sait, le pouvoir actuel a été élu sur une dynamique souverainiste. Et le pouvoir s'est engagé auprès de ses électeurs à avoir la souveraineté à la fois sur le plan stratégique militaire, y compris même sur le plan économique, puisqu'on sait que le tandem Diomaye Faye et Sonko n'a pas exclu de battre une monnaie si jamais il n'y a pas d'évolution du franc CFA. Sur le plan militaire aussi, dès le début, les autorités sénégalaises avaient laissé entendre une option souverainiste. Et au regard du succès qu'ils ont remporté sur le plan des élections présidentielles d'abord en mars 2024 et des législatives du 17 novembre, ils ont donc décidé de dérouler ce programme souverainiste et il n'est pas surprenant dès lors qu'ils aient choisi de mettre fin à la présence militaire française au Sénégal parce que dans le cas du Sénégal, c'est très clair, il s'agit de la fin de toute présence militaire française au Sénégal alors que dans le cas du Tchad, on peut encore entrevoir une certaine ambiguïté.
Pour le cas du Tchad, la France a sauvé à plusieurs reprises le pouvoir du père Idriss Déby.
Oui, en principe, en réalité, ils ont procédé à une évaluation. Le danger qui avait toujours guetté le père, c'était au moment de la stabilité du Soudan et avec le fait que le Soudan constituait une base arrière des rébellions successives qui se sont lancées à l'assaut de N'Djamena, dont celle de 2008 qui a failli emporter le régime. Maintenant, compte tenu de la situation sécuritaire au Soudan, il n'y a plus de possibilité que le Soudan serve de base arrière et la plupart des mouvements politico-militaires importants ont été inclus dans le processus politique qui se pose au Tchad. Donc la menace extérieure s'est beaucoup atténuée et aujourd'hui, compte tenu de son expérience, l'armée tchadienne a la capacité opérationnelle et même logistique de faire face à toute menace intérieure ou extérieure. Je crois que cela a pesé et puis il y a aussi le facteur sous-régional. Le Tchad a dit dans le communiqué qu'il n'excluait plus de contracter d'autres alliances stratégiques. Le Tchad sait que dans la sous-région, il y a la présence de la Russie, il y a la présence de la Turquie, il y a la présence d'autres acteurs. Donc le Tchad peut, en mettant fin à l'exclusivité du partenariat militaire avec la France, contracter d'autres alliances. Je pense particulièrement à la Russie où le président Mahamat Idriss Déby s'est rendu récemment et il a rencontré le président Poutine.
Du point de vue économique, est-ce que y a-t-il des conséquences? Les bases militaires sont entretenues?
Je ne pense pas qu'il y ait un grand impact économique parce que la présence militaire française au Tchad est répartie sur trois sites. Il y a N'Djamena, il y a Abéché et il y a Fayalarjo. Mais il n'y a pas, vous savez, c'est souvent des enclaves, c'est souvent des forces ou des casernes qui sont totalement intégrées avec la population, qui vivent au contact régulier de la population. L'approvisionnement peut venir souvent de France pour l'essentiel. Seuls quelques produits locaux sont achetés. Donc du point de vue de l'impact économique, ça ne va pas avoir un très grand impact économique puisque on sait que l'économie tchadienne repose principalement sur l'élevage, sur l'agriculture et les relations sont plus, fluides avec le Nigeria, avec le Cameroun qui est le port naturel du Tchad. Donc, sur le plan économique, ça n'aura pas véritablement d'impact, peut-être sur le plan stratégique et sur d'autres considérations. Et je ne suis pas sûr, puisque vous en avez parlé, que la France peut prendre des mesures de rétorsion contre le Tchad, à mon avis. Ce n'est pas dans son intérêt, compte tenu de sa posture aujourd'hui au Sahel. Je ne suis pas sûr qu'elle ait les moyens diplomatiques et même stratégiques d'entrer dans une confrontation avec le Tchad, alors que le front reste ouvert avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso.
Le Tchad organise des législatives bientôt. Est-ce que c'est une décision qui pourrait, disons, augmenter la popularité du régime Déby?
Oui, à mon avis, il y a cette considération de politique intérieure qui a dû aussi jouer, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il y a un courant souverainiste dans toute cette région, le Sahel qui traverse jusqu'au Tchad, particulièrement dans la jeunesse qui voit, qui observe ce qui se passe au Niger, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina. C'est clair que ça, cette posture souverainiste, cette dénonciation, le pouvoir actuel entend capitaliser ça dans les urnes, gagner quelques voix au moins de la part des populations, notamment d'une partie de la jeunesse qui est attachée à ce courant souverainiste qui balaye aujourd'hui cette partie de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Je suis sûr qu'il y a ce calcul aussi qui a été intégré dans la position du gouvernement tchadien.
Et comment vous analysez la perspective ou les perspectives des relations entre la France et ces pays sahéliens ou d'autres pays en Afrique de l'Ouest?
Oui, c'est clair que il y a aujourd'hui un changement de paradigme. Il y a, je pense, que ce que la France devrait faire au regard de ces deux annonces, c'est de tirer les leçons plutôt que d'être dans une posture de déni en pensant que au Sahel, au Mali, au Burkina, au Mali, au Burkina et au Niger, il s'agit d'un régime épidermique de la France. Voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que la France a raté. Il y a quelque chose, sans doute, il y a un problème. Si ça passe 3-4 aujourd'hui, on est au cinquième pays, il faut que la France elle-même ait l'humilité de s'interroger sur ce qui n'a pas marché dans sa diplomatie. À mon avis, la diplomatie verticale à l'ancienne où on donnait des ordres aux capitales africaines, celle du sous-préfet, cette diplomatie ne peut plus marcher. Et donc, il faut que la France s'interroge sur ce qui n'a pas marché et il faut qu'elle change de paradigme dans sa relation avec ses anciennes colonies. Pourquoi ça marche mieux avec la Grande-Bretagne ou avec d'autres pays qui ont des anciennes colonies et moins avec la France? Je crois qu'il y a des interrogations légitimes que la France devrait avoir pour continuer à garder une présence, à condition qu'elle change de paradigme. Pour moi, tout n'est pas perdu pour la France si elle change de paradigme et si elle change la façon de travailler avec ses anciennes colonies. Maintenant, ça lui appartient de le faire. Et si elle ne le fait pas, je pense que ça va, d'autres événements surprenants peuvent se produire dans d'autres pays aussi où les jeunesses regardent ce qui se passe, se sont connectés sur les réseaux sociaux, voient ce qui se passe au Tchad, au Niger, au Burkina. Donc, à mon avis, la balle est plutôt dans le camp de la France que dans le camp de ses anciennes colonies.
Il y a le Gabon et la Côte d'Ivoire où il y a encore une présence française. Est-ce que la décision du Sénégal et du Tchad pourrait, disons, créer un précédent pour les deux pays?
Non, je pense que la situation est différente. Parce que, historiquement, pour ces deux pays-là, il s'agit de bases qui sont prépositionnées, qui sont là depuis l'indépendance, et qui étaient plutôt des assurances vie pour le régime politique qui était en place, celui de Ofo-Boigny d'abord, celui de Loyomba ensuite et de Omar Bongo après Loyomba. Donc ces régimes-là ont toujours eux-mêmes voulu une présence militaire de la France comme assurance vie. Et cette considération-là n'a pas fondamentalement changé. Il n'y a pas de volonté de ces pouvoirs en place à Libreville et à Abidjan de voir l'armée française partir. Au contraire, ils sont demandeurs d'une continuité de la présence militaire. Maintenant, compte tenu du vent de souveraineté qui souffle sur le continent, la France elle-même a proposé de réduire un certain nombre, de réduire la voilure, d'être moins visible pour appeler moins de contestations. Mais je suis sûr que, fondamentalement, la présence militaire française ne va pas prendre fin au Gabon et en Côte d'Ivoire. Même si cela devait se faire, ce n'est pas dans les 5 prochaines années. Ça va être beaucoup plus long en cas d'évolution. Mais pour l'instant, je ne vois pas le Gabon et la Côte d'Ivoire, compte tenu des contextes nationaux, suivre le pas des pays du Sahel et récemment du Togo, du Sénégal et du Tchad.
Est-ce que ce sont des régimes qui ne subissent pas d'oppression de leur opinion publique? En interne?
Oui, il n'y a pas la même mobilisation de l'opinion publique pour laisser partir, pour voir partir, pour exiger la fermeture de ces bases. Vous avez vu les manifestations qu'il y a eu au Niger, qu'il y a eu au Mali, qu'il y a eu au Burkina, parce que le contexte sécuritaire n'est pas le même. Au Niger et au Burkina et au Mali, le contexte sécuritaire a fait que les citoyens ne voyaient pas la vraie valeur ajoutée de la présence militaire française. Vous avez pu entendre des gens à Niamey ou à Ouagadougou ou à Bamako dire que malgré la présence militaire française, on est attaqué au quotidien et on ne voit pas ce que cette armée étrangère fait pour nous aider. Donc, comme au Gabon et en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas confrontés à cette situation sécuritaire. Il n'y a pas de mobilisation de l'opinion pour dire que, écoutez, nous, on ne voit pas ce que vous faites ici, vous ne devez plus rester. Donc, comme il n'y a pas cette pression sécuritaire, dans l'opinion, il n'y a pas une exigence, il n'y a pas une pression sur le pouvoir pour obtenir. Il y a quelques courants marginaux, on peut dire, qui peuvent, sur la base des réseaux sociaux, mais ça, la lame n'a pas pris, il n'y a pas une lame de fond, il n'y a pas une mobilisation pour exiger justement ce qui est arrivé au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Tchad aujourd'hui et au Sénégal, arrive en Côte d'Ivoire et au Gabon.
C'est le même cas de Djibouti.
Oui, à Djibouti aussi. Bon, à Djibouti encore que, comme on sait, la présence est une présence économique, puisqu'il y a des royalties qui sont versées. La présence militaire ramène de l'argent au trésor public, puisque les armées étrangères qui sont présentes, y compris celles de la France, celles des États-Unis, celles de la Chine, celles du Japon, toutes ces armées étrangères qui sont présentes, payent une certaine redevance de leur présence au trésor public djiboutien. Donc là, il y a carrément une dimension économique qui fait que, bon, je ne suis pas sûr que, compte tenu du contexte actuel, que Djibouti veuille mettre fin à cette source d'entrée d'argent importante.